Le jeudi s'allie l'intime et l'agréable. C'est le grand format de l'agité du local.
On a fini par croire que les villes étaient des preuves. Preuves de mouvement, d'intelligence collective, de modernité. C'est un peu comme si l'intérêt d'un lieu se mesurait à la densité, au bruit, au nombre de choses à faire. Dites-moi très franchement si vous décidez, vous aussi, que l'essentiel se joue forcément là où se trouve le toujours plus. Est-ce que des idées peuvent naître dans un endroit où personne ne les attend? Est-ce que le monde avance aussi dans des lieux plus petits, avec des personnes qu'on ne verra jamais dans une réunion stratégiquement éclairée ou mise en scène? Et qu'est-ce qui, exactement, fait qu'un lieu vit? Est-ce le nombre de gens ou la manière dont quelques-uns habitent vraiment leur espace? En arrivant à Saint-Sulpice, je me suis fait cette réflexion, et si les villages n'étaient pas des espaces avec du moins, mais des espaces avec du autrement? Puisqu'on n'a pas moins d'ambition ici, juste peut-être moins de spectacle. Ici, un coutelier fabrique sans brandir l'idée d'une performance, une calligraphe passe des heures sur une seule lettre, un couple transforme une ancienne mairie en boutique éphémère, pour attirer l'œil bien sûr, mais surtout pour transmettre ce qu'ils ont rencontré ailleurs. Donc forcément, si on parle de petits villages, je me dis surtout que c'est peut-être probablement le lieu idéal où l'artisanat et la poésie font œuvre commune. Dans le grand format de votre émission quotidienne, aujourd'hui, on part en balade, là où se trouvent ces petites persistances humaines qui racontent peut-être une autre façon d'être au monde. Écoutez. Je suis à Saint-Sulpice aujourd'hui, à un petit village de Mayenne. À première vue, il ne se passe pas grand-chose et pourtant ici, l'artisanat et la poésie font œuvre commune. Aujourd'hui, je suis venue rencontrer ceux qui, par leurs gestes ou leurs regards, font vivre ce lieu autrement. Suivez-moi. Je commence ma balade ici, au bout d'un chemin bordé de haies. Ici se trouve l'atelier d'Antoine Faucheux. Ici, il fabrique des couteaux à la main avec des bois du coin.
Eh bien, Antoine Faucheux, je suis coutelier donc à Saint-Sulpice. J'ai 38 ans. Voilà.
Pourquoi avoir choisi de vous installer à Saint-Sulpice dans ce coin-là de la Mayenne ?
On dit la coutellerie du Ménanjou. Alors la coutellerie, elle est née en... Je suis parti en 2010 apprendre à fabriquer des couteaux à Thiers. Thiers, c'est la capitale de la coutellerie française. Et je suis revenu en 2012 m'installer en Mayenne. Et comme il n'y avait pas d'emploi en coutellerie en Mayenne, bah, j'avais pas d'autre option que de créer mon activité. Donc je me suis lancé. Et puis voilà, ça fait 13 ans maintenant.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans ce métier et qu'est-ce qui vous a donné envie de créer votre entreprise ?
Il y a plusieurs, du coup, je vois plusieurs réponses. Alors déjà, moi, quand j'étais gamin, mes parents étaient boulangers, donc déjà étaient artisans. Donc j'ai grandi dans cet univers-là. Je pense que c'est ce qui m'a vraiment donné envie d'être indépendant. Je ne peux en référer qu'à moi-même. Si ça ne fonctionne pas, c'est à cause de moi. Donc mes parents, voilà, étaient boulangers dans un petit village en Mayenne. Et puis notre voisin, c'était un mécanicien agricole. Et donc en fait, j'ai passé tous mes mercredis chez lui à découper de la ferraille, à percer de la ferraille, à revenir couvert d'huile à la maison, avec de la ferraille plein les poches, au grand bonheur de ma mère. Et dans la famille, il y avait pas mal de monde qui travaillait le bois aussi, menuisier, ébéniste. Mon grand-père a eu la chance d'être à la retraite très, très jeune. Et en fait, il faisait du tournage, il s'est mis à faire du tournage sur bois. Il y a toujours cet univers de bois, de métal. Après, je me suis un peu éloigné de tout ça. Je suis parti, j'ai un bac littéraire. Après, j'ai fait l'école d'infirmier. Enfin, c'est un petit peu anecdotique. Mais c'est pas du tout le parcours. Voilà, pas classique, ouais. Et puis après, je suis parti à Thiers apprendre à fabriquer des couteaux. Je suis né à Château-Gontier. Donc c'est un territoire que je connais bien. J'avais envie de ne pas forcément m'installer dans un centre-ville parce que je trouve que là, on est dans un cadre de travail qui est absolument incroyable. On n'aurait pas cette qualité en fait de vie et de travail au quotidien dans un centre-ville à mon goût. Même si aujourd'hui on a une boutique dans le centre-ville d'Angers, mais c'est vraiment c'est pas tout à fait la même chose, c'est pas tout à fait la même démarche. Et voilà, un jour j'ai eu l'occasion d'aller m'installer dans l'ancienne maison éclusière à Neuville qui était au bord de la Mayenne. Donc là on avait un cadre absolument dingue en qualité de travail. Enfin, on ouvrait la porte, on avait les pieds dans l'eau quasiment, c'était vraiment chouette. Là aujourd'hui dans le village de Saint-Sulpice, on a beaucoup plus d'espace, mais on est dans un bâtiment qui a été créé il y a plusieurs siècles. Pour le travail. Là, actuellement, on est en train de discuter dans une ancienne porcherie. Donc, c'est vraiment pour élever des animaux, pour les manger. Enfin, il y a vraiment de la, il y a vraiment de la, C'était un bâtiment pour le travail à côté. Là où il y a les machines, c'est l'écurie. Donc voilà, il y a vraiment cette âme qu'on trouve dans le bâtiment. Voilà.
Pour l'auditeur de l'autre radio qui ne nous voit pas mais qui nous écoute, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu l'espace dans lequel on se trouve ?
On est dans un bâtiment donc rénové récemment. On a encore des traces de la charpente, enfin de l'ancien toit, l'ancien plafond, qui était un petit peu bas, qui a été recoupé. Des ouvertures d'une porcherie. Alors il y a toutes petites ouvertures avec des ouvertures un petit peu plus grandes, les anciennes portes de la porcherie. Les meubles, c'est du bois. Nous on aime beaucoup le bois, c'est du principalement du merisier, du chêne. Et puis sur un pan de mur, il y a toute notre exposition de couteaux qu'on propose à la vente.
Et alors il y a aussi l'atelier.
Et l'atelier, c'est un petit écrin aussi de très très bois. Enfin, on a utilisé des planches d'un ancien menuisier. On a racheté son stock parce qu'il était à la retraite. Et en fait, on a fabriqué quasiment l'essentiel de nos meubles nous-mêmes avec des bois, des planches brutes. Voilà, on les a pas retravaillées, on les a pas poncées, on les a mis telles quelles. Et ça donne un petit cachet. On a l'impression en fait que ça a toujours été là. Alors que ça fait pas si longtemps, que ça fait pas un an que c'est ici. Et il y a ce côté un peu ancien, mais récent et pratique. Quoi.
Alors ce qu'on peut dire à l'auditeur, c'est qu'il y a toutes sortes de machines et d'outils.
Ouais. Il y a des machines pour découper le bois. On a des machines pour découper l'acier. On a à la fois des machines très très manuelles, très artisanales. On a aussi des machines un peu high tech. On a deux lasers. Qui nous permettent de découper le bois, de découper plein de matériaux différents. On a un autre laser qui nous permet de graver l'acier. Donc ça nous laisse libre cours à faire des gravures, par exemple, sur le métal. Alors ça peut être pour apposer notre marque sur les lames.
Alors des collaborations que l'on n'imagine pas forcément a priori.
Ça peut être également pour faire des partenariats. On fait un partenariat avec une tatoueuse qui est à Laval, entre autres, qui s'appelle Aline. C'est Lollipop Tattoo. Voilà, on a fait un petit partenariat comme ça, c'était vraiment chouette. À Angers, on travaille avec un autre tatoueur qui s'appelle Sarudani, et qui lui est plutôt dans un univers japonais, donc il fait un peu un univers d'estampes, et ça nous permet de collaborer et de faire. Il nous fait des dessins, puis nous on grave sur le métal, donc c'est vraiment chouette. Enfin, ça ouvre des perspectives absolument dingues. Quoi.
Alors, quelles sont les étapes de fabrication d'un couteau de l'extérieur ? On n'imagine pas tout le travail qu'il y a derrière.
La coutellerie, c'est un métier dans notre quotidien qui est partout. Parce que quand vous cuisinez, vous utilisez un couteau. Quand vous mangez, vous utilisez un couteau. Et en même temps, c'est un métier qu'on ne voit pas. Aujourd'hui, 99% des couteaux sont fabriqués par des industries. Et il doit y avoir à peu près quelque chose comme 500 millions de couteaux en France. Donc forcément, on peut pas tout fabriquer. Et c'est vraiment, il faut savoir être surprenant, il faut savoir être là où on ne nous attend pas forcément. Déjà, je crois que de se lancer dans ce métier-là, c'est un truc qu'on nous attend pas forcément là. Et voilà, donc c'est dans la continuité, dans la logique du truc. Déjà, ce qu'on s'imagine, quand on parle coutellerie, on imagine du feu, on imagine une forge, un tablier en cuir, un gars qui frappe très fort sur un morceau de métal. Et eh ben en fait c'est pas du tout ça. C'est un métier, ouais, c'est un peu fantasmagorique, c'est-à-dire qu'on sait pas trop entre celui qui va faire de la forge, des portails en fer forgé, maréchal ferrant, enfin on sait pas trop. Puis en fait ça c'est en coutellerie, ça existe, mais c'est anecdotique, c'est la partie grosse œuvre. Mais par contre c'est ce qui vient à l'esprit des gens le plus rapidement possible. Nous on a un couteau pliant, quand on le fait de A à Z, on a 44 étapes de fabrication. En fait, cette étape de gros œuf de travail de l'acier, tout le reste, ça va être de l'enlèvement de matière, ça va être du polissage, ça va être du réglage, ça va être de la mécanique quand c'est des couteaux pliants, ça va être des choses de précision, de polissage, de finition, voilà.
Et alors, vous travaillez principalement avec des bois locaux, c'est important ?
Principalement, oui. On va dire oui à 98%, c'est des bois qui viennent du coin. On a travaillé une centaine d'essences de bois à peu près. Ça va des classiques chêne, hêtre, frêne, noyer, plein de fruitiers. Ça peut être des arbustes d'ornement aussi. Et disons que nous, on a l'avantage en coutellerie de ne pas avoir besoin de grosses sections de bois. Il y a certains bois qui sont considérés comme « mauvais » entre guillemets. Parce que quand on est menuisier, quand on est ébéniste ou quand on est charpentier, on ne peut pas utiliser ce bois-là parce qu'en fait, il va être, je sais pas, trop élastique ou bah, il fait pas des sections assez grosses, donc on peut pas en faire des poutres, on peut pas en faire des planches. Mais nous, en coutellerie, on a cet avantage d'avoir besoin de très peu de matière pour fabriquer nos manches de couteau. Donc en fait, on peut utiliser absolument n'importe quoi. Et on a un procédé en plus pour durcir certains bois qui sont trop tendres. Là, vous voyez celui qui a des nervures bois en des nervures noires, voilà, qui est debout, là. Ben, ça, c'est du bouleau. Mais le bouleau, c'est un bois qui est trop tendre et on a un procédé pour le stabiliser. On enlève l'air qui est contenu dans le bois et on remplace la place de l'air par une résine naturelle à base de jus de cactus dans laquelle on met du colorant. Ou pas. Voilà, c'est comme ça qu'on arrive aussi à avoir certaines couleurs.
Oui, puisque selon le bois que vous utilisez, le rendu n'est pas du tout le même. Pour le consommateur, c'est principalement esthétique.
Tout à fait, visuellement, il y a d'énormes différences. Il y a autant de différences quand on le travaille au niveau de la résistance du matériau et au niveau de l'odeur du bois quand on le travaille. En fait, on pourrait se bander les yeux et dans l'atelier savoir quelle essence de bois est en train d'être poncée parce qu'il a une odeur un peu différente. Il y en a un, c'est l'épine noire. Quand on le travaille, on a l'impression, en fait, la première odeur qui vient au nez, c'est quand on verse la pâte à crêpe dans une poêle qui est bien chaude. En fait, ça a cette odeur-là. Ouais, c'est marrant, ça donne faim.
Alors, quelles sont les valeurs qui comptent encore pour vous aujourd'hui dans votre métier, après 13 ans à porter cette entreprise et à pratiquer? Qu'est-ce qui compte encore le plus pour vous dans votre pratique au quotidien?
La liberté de créer. De voir l'étonnement dans les yeux des gens quand ils voient nos couteaux. Nous, on met un point d'honneur à mettre de côté tout ce qui est lié à l'agressivité avec le couteau. On cherche à avoir des lignes douces, des courbes, mais quand même un petit côté un peu incisif. Hein. On est quand même sur un couteau. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on cherche vraiment à mettre en valeur parce que malheureusement, l'actualité fait que c'est des choses très tristes avec ces objets-là. Mais nous, on veut absolument s'éloigner le plus possible de tout ça. Ce week-end, à un salon, il y a encore un monsieur qui m'a dit « Ah bah, ça doit y aller le couteau », avec une remarque très, très désobligeante. Bon, bah, je lui ai dit « Nos couteaux, c'est des armes à saucisson, point barre, quoi. » C'est tout, il y a pas... C'est pas l'objet qui est dangereux, hein. c'est celui qui est l'objet qui devient dangereux.
Alors quand on regarde autour de nous vos couteaux, il s'agit effectivement d'un savoir-faire, d'une technique, mais je trouve qu'il y a aussi une part artistique. Est-ce qu'il y a un bois en particulier que vous aimez travailler ou est-ce qu'il y a une pièce peut-être en particulier dont vous êtes fier?
Oui, il y a ça peut être des matériaux. Je pense à un bois en particulier, pourtant qui est un bois très classique, c'est du chêne. Mais c'est un morceau de chêne qui vient pas de n'importe où, c'est un morceau de chêne qui vient de la chapelle du château d'Amboise, la chapelle royale du château d'Amboise où est enterré Léonard de Vinci. Et en fait il y a une entreprise de charpente qui a rénové la charpente et qui a récupéré un morceau de bois. Et on a fait des couteaux avec ce bois-là, et de travailler un bois qui a protégé la tombe de Léonard de Vinci, c'est pas anodin quoi. Ouais, c'est vraiment chouette.
En quoi pour vous votre présence à Saint-Sulpice est importante? En quoi pour vous c'est important la présence des commerces, des artisans aussi au cœur des petits villages?
Je pense que c'est encore aussi quelque part lié à mon enfance où moi j'ai grandi dans un petit village, Chemerey-le-Roi. Et en fait, voilà, je sais pas. Ouais, et puis bon, bah aujourd'hui, avec tous les moyens de communication qu'on a finalement. Je pense que nous, on se sent pas du tout isolé dans un village comme Saint-Sulpice. Et en même temps, j'ai quand même aussi l'impression que ça fait du bien aux gens de sortir d'espace. Enfin, plutôt que de chercher à aller se garer dans une zone commerciale où il y a beaucoup de monde, eh ben, en fait, ils viennent ici et en fait, il y a de l'espace. On prend le temps. C'est d'autres valeurs, d'autres envies, d'autres attentes. Enfin, je sais pas.
Et alors, vous organisez aussi des stages et des visites.
Ouais, on fait des stages de fabrication de couteaux. Vous pouvez venir fabriquer votre couteau. Vous repartez avec le couteau que vous avez fabriqué. On fait des stages qui vont de 1 heure à 2 jours dans la boutique à Angers, qui est aussi un atelier. On fait pas de fabrication, mais on fait des stages là-bas. On fait des stages sur 1 heure et 3 heures, où le but du jeu, c'est de fabriquer un couteau pliant, un couteau de poche. Sur 1 heure, en fait, dans les deux cas, on fabrique un couteau pliant, un couteau de poche. Sur 1 heure, les pièces métalliques sont déjà assemblées. Il faut choisir un manche, le fixer sur le couteau, faire le façonnage. C'est de la découverte, de l'initiation. On fait un stage aussi sur 3 heures, où là, en fait, il faut faire l'assemblage de toutes les pièces métalliques. Il y a du meulage, du rivetage, enfin, c'est un petit peu plus complet. On choisit un manche, on le fixe sur le couteau, on voit l'affûtage de la lame aussi. Dans notre atelier à Saint-Sulpice, on propose des stages sur une journée ou deux jours. Où là, on va beaucoup plus loin dans le détail. Sur une journée, c'est pareil, il faut faire l'assemblage de toutes les pièces métalliques. Mais avant, on fait aussi ce qu'on appelle du guillochage, c'est du décor à la lime qu'on fait sur les pièces du couteau. Et il y a un stage sur deux jours où là, en fait, il faut carrément dessiner un couteau et fabriquer le couteau qu'on a dessiné. Donc là, on part vraiment d'un café, d'un papier, d'un crayon et on fait vraiment toutes les étapes de fabrication du couteau, quoi.
Pour vous aussi, dans votre quotidien, dans votre pratique, dans votre métier, c'est important de transmettre ?
Eh bien, ça enrichit parce que déjà, nous, ça nous oblige à nous remettre en question tout le temps. Parce que la manière de présenter les choses en fonction du public qu'on a. On n'a pas forcément des gens manuels, on n'a pas forcément des gens qui sont dans cet élément-là. Et puis ça nous permet aussi de ne pas rester seul dans notre atelier, puis de voir du monde. Enfin, voilà, c'est tout, aussi tout simplement et de partager, encore une fois, une activité qu'on, qui n'est pas commune, qu'on ne voit pas tous les jours. Donc c'est... Ouais. Ça c'est pour les stages et puis les visites c'est pareil. Des fois quand il y a des gens qui passent, on leur explique un petit peu ce qu'on fait, mais on peut pas rentrer dans le détail à chaque fois, c'est pas possible parce que sinon nous il nous faut qu'on puisse fabriquer nos couteaux, enfin faut qu'on ait du temps. Et donc on a choisi de faire des visites et de concentrer le temps d'explication sur ces visites là. Et effectivement on accueille pour des particuliers des groupes jusqu'à 15 personnes. Mais là, on prend une heure et demie pour expliquer vraiment en détail. On le propose aussi aux entreprises. On a plein d'entreprises qui viennent visiter l'atelier. Ça fait un petit moment entre collègues. Et là, on prend le temps aussi d'expliquer. Voilà.
Merci beaucoup, Antoine.
De rien, avec plaisir.
Quelques rues plus loin, on traverse le village. Un autre atelier, celui de Paul Percy, calligraphe, meilleur ouvrier de France. Ici, chaque lettre se trace lentement, comme un souffle. En tout cas, ce sont ses mots.
Bonjour, je suis Paul Percy, calligraphe, peintre, poète à Saint-Sulpice, près de Château-Gontier, depuis 2014 à Saint-Sulpice.
Qu'est-ce que vous pourriez me dire de votre parcours ? Ça a commencé très tôt, justement, autour des lettres.
Pourquoi la calligraphie ? Pourquoi les lettres m'ont autant envoûtée ? Et à 9 ans, je me revois dessinant la capitale romaine. Puis après, très rapidement, peinture, poésie, danse, musique, tous les espaces où l'on peut créer et où on peut s'exprimer. J'ai fait l'école d'imprimerie. Et puis à 21 ans, je me suis mariée. Et avec Serge Faguier, on a... créé l'imprimerie Faguier à Château-Gontier. En 2000, nous imprimons pour Hassan Massoudi, qui est un calligraphe irakien. Et je me dis, fini la comptabilité et l'administratif. Et puis, je vais chercher pour pouvoir étudier la calligraphie. Et donc, en 2000, j'ai commencé avec Famille Rurale, avec 3 cours de 2 heures en calligraphie. Et puis, plus loin, je voulais aller plus loin et comprendre et étudier. Et en 2019, mais je suis meilleur ouvrier de France. Donc c'est un grand cheminement technique, donc ça m'a fait découvrir beaucoup de domaines, beaucoup de siècles, énormément de siècles, puisque la calligraphie est en juxtaposition de l'humain. Elle va suivre l'évolution sociale, économique, politique, architecturale, psychologique, psy en tout genre.
Aujourd'hui, on se balade à Saint-Sulpice. C'est ici que vous avez décidé d'installer votre atelier. Pourquoi Saint-Sulpice ?
L'ancienne mairie de Saint-Sulpice était à vendre. Voilà, et ce qui est l'ancienne école. Ce qui est nécessaire vraiment, c'est l'espace, le silence. Et finalement, j'ai et l'espace, et le silence, et la lumière, puisque je suis aussi dans l'école du village. Donc...
Est-ce que vous pouvez nous décrire votre atelier ? L'auditeur de l'autre radio, quand il nous écoute, ne voit pas. Mais on aime bien lui donner des images aussi via le son.
Alors, dans cette merveilleuse école, j'ai une salle de création de 50 mètres carrés. Donc, les tables sont certaines sur roulettes et tout est mobile. C'est-à-dire que je peux faire des petites œuvres sur papier. Je travaille aussi la chaux de Carrare. Donc là aussi, il peut y avoir des 30-30, mais il peut y avoir des 3 m² 50. Donc j'apprécie d'avoir les 50 m². Et puis au même niveau, j'ai une galerie. Donc là, les pièces, mes propres pièces sont exposées, puisqu'il y a aussi tout le sur-mesure qui part au fur et à mesure. Et puis à l'étage, ben, j'ai le logement de fonction de l'enseignant qui me sert de bureau, qui me sert de cuisine.
Vous travaillez avec quel outil ? Vous nous avez dit un petit peu les matières que vous utilisez, mais quels sont les outils ? Parce que là, on voit des tas de pinceaux. Expliquez-nous un petit peu.
Alors, les pinceaux chinois, les broches japonaises, les calames, les cartons, le balsa, enfin, tout ce qui peut tracer quelque chose.
J'allais vous demander si on devait définir un peu votre univers à l'auditeur qui ne voit pas vos tableaux. On remarque en fait, vous êtes inspiré, vous traversez différents mondes à travers vos créations.
Par certains moments, on va reconnaître du floral ou des choses particulières. Mais comme je combine aussi avec et les mots et la trace et le geste, y a des choses surprenantes qui me surprennent moi-même.
Vous revenez de l'exposition universelle, enfin vous nous avez dit que vous reveniez du Japon.
Oui, je reviens du Japon. Fin septembre, nous étions une délégation de 30 meilleurs ouvriers de France, donc tout métier confondu. Donc nous avons fait des démonstrations pendant 3 jours et nous étions aussi attendus à Kyoto, qui est la capitale historique, et Ogaki, qui est une très grande ville spécialisée en métiers d'art. Et donc il y a des jumelages qui ont été signés aussi, et avec à Ogaki la prévision d'ouverture du MOF Museum, le premier en 2026 avec résidence d'artistes.
Qu'est-ce que ça représente pour vous de pouvoir montrer votre travail à si grande échelle ?
Eh bien, c'est assez surprenant d'emmener une calligraphe occidentale au Japon. Je suis fière d'emmener la France au Japon. Voilà, et puis j'espère qu'il va y avoir d'autres choses qui vont se produire au Japon. Et puis, de se dire, l'Occident tient debout aussi et la France a beaucoup de talent. Voilà, nous étions 30 et la France a beaucoup de talent. Et il faut vraiment protéger ça en France.
Aujourd'hui, je me balade dans Saint-Sulpice pour justement parler de cette dynamique locale. On se dit c'est un petit village et en fin de compte, on y croise un savoir-faire, un artisanat, de l'art. En quoi pour vous c'est important justement de montrer que même dans les petits villages, il se passe énormément de choses et qu'on y fait des belles rencontres ?
Alors pour moi c'est fondamental. C'est-à-dire que c'est peut-être plus dans les petits villages et dans la campagne qu'on nous rencontre. D'abord, on fait la promotion des petits villages et Saint-Sulpice est particulièrement beau. Voilà, il y a une âme à Saint-Sulpice et de faire sortir les Mayennais et de venir nous voir, c'est fabuleux. Voilà, ils ont l'espace de balade. Saint-Sulpice, il y a une très belle église, il y a un très beau château, il y a des très belles balades, on est sur les bords de l'eau.
Pour l'auditeur de l'autre radio qui nous écoute et qui se dit « Tiens, j'aimerais bien aller faire un tour et voir ces calligraphies, venir à votre rencontre ou même découvrir votre travail. » Je ne sais pas s'il y a un site internet, si.
Alors, pour l'ouverture de mon atelier, c'est particulier parce que les moments où je crée, je ne peux recevoir personne. Donc, le plus simple, c'est de m'appeler, voilà, au 06 08 00 43 30 et de prendre rendez-vous. Alors, il y a un site, je suis sur Facebook, sur Instagram, vous pouvez me contacter par mail. Alors, il peut y avoir une visite individuelle, mais il peut y avoir une visite de groupe. Il va y avoir à nouveau des stages qui vont être lancés, les portes ouvertes le 6 décembre de 10h à 18h, c'est un samedi. Et puis je reste ouverte à toute rencontre parce que c'est toujours de beaux moments.
Dans l'ancienne mairie, Annie et Guillaume ont installé une boutique éphémère, des vêtements et étoles en laine de yak, inspirés des voyages en Inde d'Annie. Et à deux, ils le disent, on emmène un peu de l'Inde en Mayenne.
Annie André, et voilà, je recommence la laine de yak avec Guillaume. Guillaume, présente-toi.
Et à côté de toi, Guillaume Sadurny, donc effectivement le repreneur de Rajani, qui maintenant va devenir Rajani & Co. Voilà, et c'est une transmission d'entreprise, une transmission de savoir-faire aussi. Et aussi un pays, l'Inde, qui est multi-tout, multiculture, multicouleur, multi-personne. Voilà, donc retrouver ça ici en Mayenne, c'est vraiment incroyable.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la jeunesse de ce projet-là ? C'est avec toi, Annie, que ça a commencé.
J'ai commencé et ça a duré une quinzaine d'années, où j'ai pris mon bâton de pèlerin pour aller trouver des produits chauds. Et j'ai découvert la laine de yak dans le Punjab, qui effectivement vient du Népal ou du Tibet. Parce qu'en fait, les éleveurs des yaks les tondent après l'hiver. Pardon. Les tondes après l'hiver recueillent le poil et le duvet. Du poil, ils en font des tissus, des tapis, du duvet, ils font la laine. Et cette laine sert à tisser les fameuses étoles de yak, avec lesquelles j'ai travaillé. J'ai fait des vêtements, j'ai fait fabriquer des vêtements, j'ai fait ma ligne de vêtements, voilà. Et j'ai continué tout ça pendant une quinzaine d'années.
Vous avez un attachement fort à la culture là-bas. Ça vous a beaucoup marqué lors de vos voyages, Annie ?
Oh oui, ça m'a beaucoup marqué. J'y suis allée 3 fois la même année. Et c'est à ce moment-là où j'ai senti qu'il y avait un appel sur l'Inde. Et de toute façon, ça me prend aux tripes. Et je crois que c'est mon deuxième pays, oui. Oui. Ouais. Les gens sont chaleureux, ils m'ont aidé beaucoup. Et puis, il y a quelque chose qui se passe. Ouais, c'est énorme.
Parle de laine de yak. Comment est-ce qu'on peut la décrire ? On la voit assez rarement, finalement, ici.
C'est extrêmement rare. C'est une laine qui a une particularité qui est très douce au toucher, qui ne pique pas du tout. Par exemple, moi je suis allergique à la laine. Généralement, je peux pas mettre de laine de pull en laine. Et là, en fait, je peux le mettre autour du cou, autour de moi. Il y a vraiment aucun souci. Et c'est une des premières choses, une des choses qui m'a séduite quand j'ai découvert ce produit-là. D'où au toucher, qui retient vraiment bien la chaleur du corps. Qui peut être posée très légère aussi, effectivement. Donc, été comme hiver. On peut penser qu'en été, il fait chaud, mettre une laine encore par-dessus, c'est pas trop cohérent. Si. Puisqu'il y a le témoignage d'anciennes clientes qui l'amènent à la plage avec elle, elle la traîne littéralement partout. Là, je pense qu'on peut le dire.
Ouais, elle la traîne partout. Et quand je rencontrais, en fait, j'ai tenu un magasin à Housset très périodiquement. Et après, je m'en allais sur la Tronche-sur-Mer pendant 6 mois où je vendais mes produits. Donc, j'étais quand même l'été là-bas. Et j'emmenais mes productions hiver quand même, notamment cette fameuse étole de yak, où les filles, quand elles passaient dans le magasin avec leur étole, regardent ce qu'on a. Et le soir, sur les terrasses, je voyais tout le monde avec sa petite étole de yak. Oui, elle la traîne partout, quoi. Puis elle est légère, on la met... Moi, dès que je pars, j'en ai une, quoi, dans la voiture, dans le sac. Ouais. C'est vraiment très, très chouette.
C'est vraiment cette idée de faire découvrir cette douceur et que vraiment se faire plaisir, c'est des plaisirs simples, donc tout simplement. Et vraiment, ça, c'est... Voilà. Cette douceur-là.
C'est un petit doudou, en fait. C'est un petit doudou. Elles me disent toujours, mais t'as vu, j'ai mon doudou. Et d'ailleurs, il y en a une là qui m'a recommandé, parce que moi, j'ai fait donc des vêtements. Et là, j'ai une amie qui a recommandé des étoles, des capes à capuche. Donc, c'était difficile de la faire en Inde parce qu'il faut vraiment être sur place pour suivre les fabrications. Donc, on a trouvé quelqu'un en France et on va en faire sur commande pour ceux qui... Et en Mayenne, un produit mayennais maintenant, pour celles qui sont intéressées. Voilà, ce sera sur commande ou sur rendez-vous même aussi dans notre magasin. On ouvre pendant une période, là, du 24 novembre jusqu'au 19 décembre. Mais sur rendez-vous, on peut très bien aussi répondre.
Oui, puisqu'il faut le dire à l'auditeur de l'autre radio, on se trouve dans l'ancienne mairie de Saint-Sulpice. D'où est venue l'idée de s'installer ici ? Est-ce que vous pouvez nous décrire l'endroit où on se trouve ?
Alors, c'est à la mairie, en fait, de Saint-Sulpice. Le secrétariat était libre puisque maintenant les communes sont rassemblées. Et donc, on a rencontré M. Forveil et puis M. Délogé, qui sont et le maire adjoint ici, et qui ont été vraiment très accueillants, très partants pour nous laisser ce local, que l'on loue bien évidemment.
Très partants tout de suite,
oui,
d'ailleurs.
Tout
ils ont
de suite,
tout de suite adhéré à l'idée. Et oui. C'est ce qui a fait que ça soit aussi rapide et qu'en l'espace de 2 mois, y a un magasin qui est prêt à accueillir les gens et colorer.
Et colorer, oui, parce que l'Inde, c'est la couleur, c'est les odeurs aussi.
C'est ce que j'allais dire. Dès qu'on passe le pas de la porte, là, on est pris par cette bonne odeur. C'est quoi cette odeur ?
C'est l'odeur de l'Inde, c'est de l'encens aussi, puisqu'on a de l'encens. On vend aussi du chai, carrément le thé indien. Et puis, il y a toutes les couleurs. Quand on est emporté par toutes ces couleurs dès qu'on rentre. C'est lumineux, c'est chaleureux, c'est toute la chaleur de l'Inde, en fait, et de ce qu'ils sont.
Vous nous décrivez les différents produits qu'il y a tout autour de nous. Justement, c'est de la couleur, partout.
Oui, alors en premier lieu, effectivement, il y a les étoles de toutes les couleurs, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Ensuite, il y a des foulards en soie, il y a des écharpes en coton, il y a des coussins, des bonnets en laine de yak, des dupattas en soie, des pantalons, des chemises en coton pour hommes et des jupes. Ensuite, nous avons des bracelets, des quelques bijoux et surtout des porte-monnaies, des petites pochettes en laine bouillie et en chanvre.
Plus l'encens, le chai, qu'on pourra faire goûter éventuellement. Et on a la recette pour bien le réussir. On a aussi des petits tapis. Mais en fait, tout provient de l'Inde. Voilà, on a travaillé avec les fournisseurs que j'avais avant. Et notre projet, c'est d'aller là-bas aussi pour ramener encore plus de choses.
Vous disiez ramener l'Inde en Mayenne, c'est vraiment ça finalement le projet ?
Ah oui, tout à fait, tout à fait. C'est toute cette chaleur en fait de ce pays-là, la ramener ici.
Vous êtes présent ici à l'ancienne mairie de Saint-Sulpice du 24 novembre jusqu'au 19 décembre. Est-ce qu'il y a des horaires qu'on peut donner à l'auditeur ?
Tout à fait. 10h, 13h, 15h, 20h, tous les jours, même le dimanche, sauf les mercredis et jeudi matin.
Sauf sur rendez-vous ?
Oui, sur rendez-vous.
Sauf sur rendez-vous. Si vraiment ça ne va pas du tout un de ces jours, on peut se caler un petit rendez-vous. Donc voilà. Tout est possible, on reste ouvert à toutes les possibilités, on reste ouvert à la demande des personnes tout en restant bien sûr équilibré. Quoi. Je voulais juste rajouter un truc par rapport à tout à l'heure, je ne sais plus à quelle question c'était, qu'en fait j'ai l'impression qu'on s'adresse surtout aux femmes, parce que tout à l'heure on parlait des clientes. Et je voulais rajouter que c'est pas que des produits, les étoiles c'est pas que pour des femmes, c'est vraiment pour tout le monde, il y a des couleurs pour tout le monde et puis chacun a ses goûts, donc autant les femmes, autant les hommes, autant les enfants, ça marche très bien sur les enfants, ça les calme beaucoup. Et donc, ne pas hésiter à venir ici faire des tests, l'essayer et voir ce que ça fait.
C'est l'occasion d'une balade à Saint-Sulpice, c'est un petit village, je ne sais pas si on peut dire petit village de caractère, en tout cas c'est un village magnifique qui vit finalement, c'est ce qu'on découvre aujourd'hui dans cette balade à Saint-Sulpice.
Oui, tout à fait, et on était hier en train de préparer le magasin et des visiteurs sont entrés parce qu'ils étaient en balade et se sont arrêtés et voilà, ils ont découvert et ils ont acheté des laines de yak. Voilà.
Ouais, c'est ça, c'est l'occasion de faire une balade d'une après-midi, un dimanche après-midi ou un autre jour, parce qu'effectivement il y a le château aussi, et le village c'est un village de caractère, donc ça fait plaisir, il y a des belles balades à faire aussi, on est tout de suite dans la campagne, donc ça vaut le coup de faire le détour, tout de suite près du village, ouais. Tout près de Château-Gontier, donc voilà.
Il y a du soleil en plus pour le moment, faut en profiter.
Oui, 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 aujourd'hui il y a plein de soleil, donc il y a plein de lumière, et comme l'Inde, c'est la lumière aussi. Et je reviens aussi sur le fait que les enfants aiment beaucoup ces étoiles. Moi, j'ai plein de petits-enfants et ils en ont tous une et ils se l'attrapent tout le temps et ils la mettent sur le dos, sur leur lit. Et ouais. Ouais, c'est très, très chouette.
On rappelle à l'auditeur de l'autre radio pour vous retrouver. Ça se passe à l'ancienne mairie de Saint-Sulpice du 24 novembre jusqu'au 19 décembre. Dans un premier temps, peut-être qu'on vous retrouvera ailleurs ensuite. C'est pas déjà annoncé encore.
Si, on va faire 3 marchés de Noël. Donc le premier, ça sera le 22 et 23 novembre à Villepaille. Puis on aura à Sainte-Suzanne et à Mésanger, tous les deux en week-end en décembre. Il y aura quelqu'un là-bas et le magasin restera ouvert, bien évidemment, pour ceux qui voudront venir nous voir.
Merci pour l'accueil dans cette boutique éphémère. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci à toi, Margot.
À Saint-Sulpice, on ne parle pas de redynamisation ni de plan rural, on parle de gens, des artisans, des artistes, des habitants qui, chacun à leur manière, gardent le village vivant. Pas de grands discours, juste la preuve que l'activité ici prend encore racine dans les mains et les rencontres. On quitte doucement les ateliers de Saint-Sulpice pour l'agenda culturel de la semaine, pour les échappées de la semaine. Mais avant ça, on fait une pause musicale avec Zélie. On écoute Au revoir, mon amour.
Ça fait bientôt une heure que tu es arrivée, que je t'ai vu t'asseoir à côté. Ça fait bientôt une heure sans oser te parler. Et soudain il arrive et vous vous en allez. Au revoir mon amour, peut-être un autre jour, peut-être une autre année. Au revoir mon amour, la vie n'est pas finie, la vie n'est pas passée. C'est une autre aujourd'hui qui s'avance vers moi. C'est une autre et c'est toi qui me passe à côté. C'est un nouveau visage dont les yeux sont fermés, qui ne veut pas me connaître ni m'aimer. Au revoir mon amour, peut-être un autre jour, peut-être une autre année. Au revoir mon amour, la vie n'est pas finie, la vie n'est pas passée. Où peux-tu te trouver aujourd'hui, où es-tu? Prête à ne pas me voir. Où es-tu? Te prépares-tu chez toi à ne pas me rencontrer, ou bien à m'ignorer? Où es-tu? À plus tard mon amour, peut-être un autre jour, peut-être une autre année. À plus tard mon amour, la vie n'est pas finie, la vie n'est pas passée. Au revoir mon amour, nous avons tout le temps. Je ne suis pas pressée. Peut-être mon amour, mieux vaut ne pas s'aimer qu'un jour ne plus s'aimer.
Alors comment vous dire, les échappées de la semaine, c'est un peu la rubrique où je fais la liste de tout ce que vous pourriez faire mais que vous n'aviez absolument pas prévu, puisqu'on vit dans une époque, dans un monde où on n'a souvent pas le temps, mais où on a le temps pour dire qu'on ne l'a pas. Et pourtant, il se passe des choses qui nous sortent de nos routines, de nos inquiétudes quotidiennes, grâce à nos salles. Et justement, on va commencer au Carré à Château-Gontier, puisque vous en avez entendu parler ce mardi dans l'émission quotidienne. Mais ce soir, sur la scène du Théâtre des Ursulines, on vous parle de troubles du comportement alimentaire. Écoutez Christine Houdard nous en parler.
Le jeudi 20 novembre, nous accueillerons l'Anima Compagnie, donc compagnie lavalloise, qui créera, ça sera la première représentation, son prochain spectacle, donc qui s'appelle « Tout tient encore debout ». Et donc pour ce spectacle, Lucie Rimbaud est à la mise en scène, mais également à l'écriture du texte. Et elle va aborder un sujet qui n'est pas forcément facile. Elle va s'attacher à travailler sur les troubles des conduites alimentaires, et notamment l'impact que ça peut avoir, notamment sur les adolescents et les adolescentes. Et donc on va suivre le parcours d'une jeune fille de 15 ans, qui au départ est plutôt pleine de vie et ne se pose pas trop de questions. En fait, elle croque la vie. Et jusqu'au moment où, entre quelques remarques un peu déplacées, genre « Ah, bah, t'as un bon coup de fourchette, oh, mais t'aurais pas pris un peu que quelques kilos ?» Plus les réseaux sociaux qui affichent des modèles qui peuvent être largement discutables, tout ça va commencer à lui créer des pensées parasites et petit à petit, elle va sombrer dans les troubles alimentaires, donc que ce soit l'anorexie, des phases de boulimie. On va suivre son parcours et aussi son isolement au travers de cette maladie. Et donc, c'est vraiment tout l'enjeu de la pièce. Lucie Rimbaud, au sein de la compagnie, est vraiment attachée à travailler sur des thématiques liées à l'adolescence. Et donc, dans les précédentes créations, on avait accueilli les Écorchés qui parlaient du harcèlement scolaire. Et c'est toujours abordé de façon intelligente et sensible. Donc nous attendons avec impatience cette création.
Je vous rappelle que l'autre radio vous donne rendez-vous sur place dès 19h avec le collectif Santé Mentale 53 pour un temps de témoignage et de discussion autour de cette thématique. Et on continue en allant cette fois à Sablé-sur-Sarthe au théâtre L'Entracte et on écoute Marie Collet nous en parler.
Le spectacle dont je vais vous parler, c'est un petit coup de cœur, Chemin des métaphores, de la compagnie Singe Diesel, qu'on accueillera le mercredi 26 novembre à 15h30. C'est une petite pépite, en fait, sur le temps qui passe, le temps qu'on prend et la façon dont on regarde les choses. Chemin des métaphores, c'est un comédien sur scène qui est au milieu d'un carrousel et rempli de marionnettes, en fait. Et on va suivre, à travers ce carrousel, l'histoire d'un vieil homme qui, un matin, décide de prendre le chemin des métaphores, le chemin le plus long. Alors, est-ce que c'est un chemin différent? Est-ce que c'est le chemin, finalement, qu'on a l'habitude de prendre, mais qu'on ne prend pas le temps de regarder? C'est une vraie éloge à la simplicité, à la lenteur, au fait de prendre son temps. Et les marionnettes sont magnifiques.
L'agité du local, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Antoine, Paul, Annie et Guillaume. Merci à Noé qui signe le montage de ce reportage. Et merci à Lénaïque Folzour qui signe la musique originale de cette émission. Nous, on rend l'antenne, mais restez à l'écoute de l'autre radio puisqu'à 19h, votre soirée commence avec l'émission Gold Soul Theory. Nos deux animateurs, Yoko et Mout, ont cette belle et modeste ambition de vous faire découvrir ou redécouvrir standards et autres pépites de la soul music. Ensuite, à 21h, on écoute All Blues, une soirée musicale sur les ondes de l'autre radio, vous l'avez compris. Moi je vous dis à demain pour la dernière agitée du local de la semaine, ce sera le best-of, on repasse en revue les meilleurs moments de la semaine pour ceux qui en auraient manqué un morceau. D'ici là, ménagez-vous un peu, ça compte plus qu'on ne le croit, vous le méritez, s'il vous plaît, faites-le bien.
Voilà, rideau tombé pour aujourd'hui.
Mais revenez demain, on vous garde des places.